VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
21h à Ouagadougou et à Conakry. Bienvenue dans notre bulletin d'information. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au Burkina Faso, les élections présidentielles auront bel et bien lieu en 2015. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président de la transition, Michel Kafando. Bakassi Koura, notre correspondant, est sur place et nous lui avons posé la question: que peut-on dire aujourd'hui de plus sur cette rencontre avec les signataires de la charte de la transition?
Oui, les élections auront bien lieu en 2015. Hein, on sait exactement la date. Ce sera le 29 novembre 2015, puisque la réunion vient de se terminer ici. C'était une rencontre entre le président Michel Kafando, le président de la transition, et les représentants de toutes ces composantes qui étaient en novembre dernier pour mettre en place cette transition de 12 mois. Ces organisations, on les appelle les signataires de la charte de la transition. Et donc, aujourd'hui, on connaît bien une date. Ce sera le 29 novembre 2015. Et c'est cette date qui a été annoncée à l'instant même par le président Michel Kafando et aussi certains des participants. Vous savez que le Burkina Faso a mis en place cette transition en novembre dernier, après la chute de Blaise Compaoré. Et les élections devraient avoir lieu dimanche passé, le 11 octobre. Et elles n'ont pas eu lieu. Donc ce soir, Michel Kafando a rencontré ses signataires de la charte pour, dit-il, au départ, échanger en vue d'arrêter un chronogramme. Eh bien, on le sait, comme je le disais, ce sera le 29 novembre. Et donc, les Burkinabés, ce soir, sont situés sur la date des élections générales, c'est-à-dire législatives et présidentielles.
Bakassi Koura, notre envoyé spécial au Burkina Faso. En Guinée, la mission d'observation de l'Union européenne pour l'élection présidentielle de dimanche dernier a appelé les candidats à recourir à la justice plutôt qu'à la rue en cas de contestation des résultats attendus. République démocratique du Congo, 6 civils ont été tués hier dans 3 attaques distinctes attribuées à des rebelles ougandais près de Beni. Des attaques qui ont eu lieu à une cinquantaine de kilomètres de cette ville située dans le nord de la province du Nord Kivu. Au Mali, au moins 6 personnes ont été tuées dans la région de Tombouctou aujourd'hui dans une embuscade attribuée à des islamistes. Une information confirmée à l'AFP par des sources de sécurité maliennes. Le 9 octobre dernier, déjà 3 civils avaient été tués dans la région de Mopti dans une attaque attribuée également à des islamistes. Et puis le collectif d'associations européennes et africaines Tournons la page a dénoncé aujourd'hui dans une lettre ouverte à François Hollande, le président français, le silence de la France face au référendum constitutionnel annoncé par le président congolais, qualifié de coup d'État constitutionnel.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et l'actualité dans le reste du monde, en bref, les violences entre Israéliens et Palestiniens ont franchi un nouveau palier. Aujourd'hui, 3 Israéliens ont été tués dans 2 attentats à Jérusalem au cours de la journée la plus meurtrière d'une escalade que personne ne semble pouvoir arrêter. Et la tension demeurait vive également en Cisjordanie occupée. Des tirs sporadiques ont secoué les alentours de Ghazni, grande ville du sud afghan. La veille, les forces gouvernementales avaient repoussé une offensive des talibans 2 semaines après leur assaut victorieux contre une autre capitale provinciale, Kunduz, dans le nord du pays. Le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a accusé aujourd'hui des services secrets russes d'avoir abattu en juillet 2014 le Boeing 777 du vol MH17 de Malaysian Airlines assurant la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur. Vous vous en souvenez sûrement, un vol mystère. On a eu pendant des mois, des débris ont été recherchés. Ces déclarations interviennent après la publication aux Pays-Bas des résultats de l'enquête internationale sur ce drame qui a fait 298 morts. Et puis ici aux États-Unis, l'événement sur le plan politique, c'est le premier des 6 débats télévisés des candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle. Ça a lieu ce soir à Las Vegas. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 55 minutes. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes et sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Auditrice, auditeur, bonsoir chez vous. Eric Manilakiza avec vous à Washington depuis le studio 10. C'est votre rendez-vous, votre antenne libre, une émission interactive. Nous parlons de la Guinée. Nous continuons à parler de la Guinée. La communauté internationale exhortée mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, les candidats à la présidentielle en Guinée à régler leurs différends en justice plutôt que dans la rue. Au lendemain de la demande par les 7 adversaires du sortant Alpha Condé de l'annulation du premier tour. Et les premiers résultats se faisaient attendre. La Commission électorale nationale indépendante CENI, disposant de 72 heures après réception du dernier procès verbal des quelques 14 000 bureaux de vote pour les annoncer. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a appelé les protagonistes à recourir à la justice plutôt qu'à la violence en cas de contestation. Son chef, Frank Engel, a plaidé pour porter tout litige devant les juges au lieu de les faire vivre dans la rue. Il a fustigé l'impréparation, voire la désorganisation totale de la CENI, lui imputant les multiples problèmes constatés le jour du vote, mais a indiqué n'avoir rien vu à ce stade qui entache la validité du scrutin. Le chef de l'opposition a déploré dans une vidéo aujourd'hui mardi l'absence de toute réaction de la communauté internationale et des observateurs électoraux face à ce qu'il a appelé une mascarade au grand jour. Le niveau de participation et la discipline des électeurs lors du vote ne suffisent pas pour juger de la crédibilité d'un scrutin, a souligné M. Diallo, qui a promis lundi de mobiliser ses partisans dans la rue, faute, selon lui, d'institutions indépendantes pour se faire entendre. Voilà la situation à Conakry, en Guinée. Je suis en ligne avec Ibrahima Soli Traoré, c'est l'administrateur directeur général de Guinée7.com. Bonsoir, M. Traoré.
Bonsoir, Monsieur Eric.
Bienvenue à cette émission et bienvenue également à tous les auditeurs de VOA Afrique qui sont en train de nous appeler. Nous, on commence d'abord par Monsieur Traoré. Je viens de développer, disons, les dernières nouvelles chez vous. Que faut-il ajouter?
Ce qu'il faut ajouter, c'est que, merci vraiment pour l'invitation. Ce qu'il faut ajouter, c'est que ce soir, dans l'après-midi, parce que M. Selou Dalein Diallo, comme vous l'avez dit, avait dit à ses partisans qu'il ne reconnaissait pas le résultat du vote. Et il avait demandé aussi d'être dans la rue. Et donc, il y a une partie de ses partisans et alors qui sont effectivement descendus dans la rue, dans son fief ici qu'on appelle l'axe Bambeto-Koza Amdanlaï. Et puis, il y a eu des accrochages, des échauffourées avec les forces de l'ordre. Et puis, jusqu'à ce soir, on a entendu quelques coups de feu, mais il y a eu quand même plus de peur que de mal, comme on dit. Voilà. Il y a eu des véhicules cassés et puis quelques blessures légères, on déplore cela. Mais voilà, pour le moment, pas de mort. Et puis, les choses se calment quand même la nuit-là.
Ah oui, il y a eu justement cet échange des jets de pierre près du domicile de M. Selou Dalein Diallo. C'est ça?
Vous avez dit, vous parliez de sa vidéo. Je n'ai pas bien entendu votre question, s'il vous plaît.
Oui, à la mi-journée, il y a eu des groupes de quelques dizaines de jeunes qui ont échangé des jets de pierre près de son domicile, dispersé.
Mais surtout, ça s'est fait surtout en banlieue, mais dans son fief. C'est une zone qui est largement acquise et cette zone s'appelle Bambeto, Koza et Amdalaï, et c'est dans la commune de Ratoma.
Il y a eu aussi usage de gaz lacrymogène avec les policiers dans ces affrontements.
Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes contre des personnes qui manifestaient. Mais aussi, vous savez, en Guinée, c'est un peu particulier. Le plus souvent, des manifestations qui sont appelées par l'opposition aussi sont infiltrées. Il y a des badauds qui se mêlent de ces manifestations, donc qui en profitent pour piller.
Et maintenant, par rapport aux positions des uns et des autres, faut-il espérer un dénouement de la situation avant que les choses ne dégénèrent ou l'on va vers un crash?
Non, je crois qu'on n'ira pas vers un clash. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, celui qui veut vraiment en découdre avec les autorités, c'est bien M. Selou Dalène. Et les autres candidats, ils ne reconnaissent pas les autres candidats de l'opposition. Ils ne reconnaissent pas les résultats, mais ils n'appellent pas non plus à manifester. Et c'est M. Sidya Touré, c'est M. Antonin Kouyaté et compagnie. Et surtout, il y a une dame, la seule femme qui est candidate, Madame Madeleine Diabaté, a demandé, et d'ailleurs, et de manière très officielle, a demandé à ce qu'on n'écoute pas les leaders qui demanderaient aux militants de descendre dans la rue. Voilà, donc c'est une grande démarcation. Et ceci n'est pas, c'est une façon de toute façon de d'apaiser, parce que M. Selou Dalène à lui seul, il ne va pas continuer à faire descendre ses militants dans la rue si ils ne sont pas accompagnés par les autres. Sinon, ils risqueraient de paraître comme étant quelqu'un qui dresse une communauté contre tous les autres, parce que on pense que la majorité des adhérents de son parti, donc de son ethnie, il a forcément besoin des autres pour que la manifestation soit beaucoup plus coloriée, pour que la manifestation ait un caractère beaucoup plus national. Donc si il n'y a pas d'accompagnement, il va sans dire qu'il va lui-même lâcher du lest.
Merci à Ibrahima Traoré. Je rappelle que vous êtes éditorialiste du site guinée7.com. Restez en ligne, nous allons recevoir des auditeurs pour réactions et commentaires. Nous recevons d'abord Mahamadou Douayne Niambele. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous dites qu'il ne faut pas que l'opposition envoie les enfants à la mort. Je pense que l'Union européenne et l'Union africaine se réjouissent du bon déroulement des élections, donc il faut accepter les résultats des urnes. C'est ce que vous dites sur notre page Facebook.
Effectivement, oui. Je pense que l'opposition africaine a vraiment besoin d'une bonne leçon, parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est
Parlons de l'opposition en Guinée.
L'Union européenne.
Parlons de l'opposition en Guinée, parce que si vous dites africaine, là on globalise.
Oui, effectivement, parce que chaque fois on voit comme ça, il y a seulement des pays où l'opposition qui accepte les résultats comme ça, comme Nigeria tout récemment. Donc ouais, quand vous regardez la télé, on voit que des enfants et puis des gens qui ne sont même pas à l'âge de voter, qui sont en train de jeter des pierres contre vraiment les forces de l'ordre. Moi, quand même, vraiment, comme je vais soutenir l'idée de mon précédent intervenant, je dis que si dans le jeu, il ne faut pas qu'il envoie les enfants à la mort. Parce que ces enfants-là, ils vont prendre des pierres contre les forces de l'ordre. Et ils sont là pour maintenir l'ordre public. Vraiment, je pense que les résultats, quand même, ou bien lui, il n'a pas confiance à l'Union européenne. Moi, je pense que ça, c'est impossible. Ou bien lui, il n'a pas confiance à l'Union africaine. Là, ça aussi, c'est impossible. Donc, que ces deux institutions acceptent les résultats, lui aussi, pourquoi pas. On voit lui-même, il est dans sa maison. Bon, même s'il est avec les médias, on ne lui voit pas devant ces policiers-là. Ce sont ces pauvres enfants qui n'ont rien, qui sont devant la police et devant la gendarmerie, qui sont en train de jeter des pieds. Et puis, quand ces enfants seront blessés, vraiment, sincèrement parler, réfléchissons à l'africaine. Donc vraiment, on connaît l'opposition africaine. Donc moi, je pense que la voix des urnes a tranché. Même si on ne connaît pas les résultats d'abord, donc néanmoins, il faut que lui, il attend vraiment les résultats et puis de réagir ou bien de pousser les enfants.
Quelle est la solution que vous proposez? Quelle est la solution que vous proposez?
Voilà, qu'il attend d'abord les résultats et qu'il accorde vraiment un peu de confiance à la communauté internationale qui est l'Union européenne et l'Union africaine, vraiment d'attendre. Vraiment, on en a marre de ce qu'ils utilisent les enfants à leur fin, sincèrement parler.
Mmh. Merci.
Il attend les résultats, voilà, et puis voilà, c'est ça.
Mmh. Et après les résultats?
Voilà, et puis voilà qu'il attend les résultats et puis il va faire ses réclamations.
Mmh.
Voilà.
Merci Mamadou pour votre réaction, votre commentaire. Nous recevons un autre auditeur, c'est Ousmane Barry qui est en Guinée. Barry, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Mmh. Vous dites que l'opposition est dans son rôle, on doit tout faire pour annuler les élections pour éviter des troubles dans le pays par la CENI et le pouvoir en place. Vous dites que le pouvoir en place a fait tout ça pour empêcher les électeurs de désigner leurs candidats.
Mm-hmm. Évidemment, monsieur, c'est exactement ça, parce que ne restez pas sans savoir, depuis qu'on a organisé les élections le dimanche passé, le pouvoir en place a donné l'instruction, les ministres et certains hauts commis de l'État qui, en train de passer dans les centralisations, modifier encore les PV, les procès-verbaux. Ils ont organisé une mascarade électorale. La CENI ne fait que confirmer l'inquiétude de l'opposition depuis que l'opposition a dit qu'il faut repousser les élections. Aujourd'hui, ce que je préconise, qu'on annule les élections, ne restez pas sans savoir, tous les pays qui ont connu des troubles post-électoraux, c'est parce que tout simplement, le pouvoir en place a refusé catégoriquement d'écouter l'opposition en place. Ils ont parti, ils ont préféré la forcing au lieu d'écouter le pouvoir en place. Et si j'entends les gens dire qu'il ne faudrait pas que l'opposition utilise les enfants pour leur fin, s'il y a un laboratoire, c'est parce que forcément il y a un boussé. Aujourd'hui, les autorités doivent écouter l'opposition. Parce que si jamais et la CENI et le pouvoir en place, les coûts qui coûtent pour que le pouvoir en place passe dès le premier tour, ça fait que c'est des Guinéens qui ne vont pas accepter cela. Ça ne veut pas dire que comme les Guinéens sont partis voter librement, l'élection est libre et transparente. Non, il faut attendre quand il y a centralisation. La CENI proclame les résultats. C'est en ce moment qu'on peut dire que l'élection est libre. Mais en ce moment, ce qui est en train de se passer, il y a certains responsables de l'opposition qui sont partis en train de faire recours à l'armée pour les faire sortir dans les lieux de centralisation pour permettre les gens de participer les résultats. Notamment, je faisais partie, j'étais un délégué. On m'a refusé de rentrer. Lorsque j'ai insisté, ils sont obligés de m'enfermer plus de 3 heures de temps pour qu'ils puissent falsifier les résultats. C'est vraiment dommage ce qui est en train de se passer dans mon pays. J'exhorte vraiment les responsables, les observateurs de l'UE et des Nations Unies vraiment de ne pas s'interférer dans les affaires guinéennes. C'est les leaders politiques guinéens qui sont dit qu'ils ne vont pas reconnaître les résultats. Ça fait qu'il y a une France de la population qui sont délirés. Il faut les écouter parce que nous ne voulons pas que le pays sombre.
Mmh. Oui. Pourquoi vous êtes allé aux élections alors que vous étiez au point que...
On est allé aux élections parce que le pouvoir en place et la CENI avaient dit que la CENI était fin prêt. Mais ce qu'on a vu ici, on était obligé de voter même dans les bus abandonnés. Il y a certains bureaux de vote qui ont attendu les responsables de la CENI toute la journée, ils n'ont pas venu. En ce moment, ça tire dans tous les quartiers de Conakry. C'est ce que les Guinéens demandaient. J'ai dit non, on est parti aux élections parce que la CENI nous avait rassurés. Maintenant, ce qu'on a constaté, c'était vraiment un fiasco. En tout cas, ils n'étaient pas prêts.
Mmh. Merci pour votre commentaire. Nous allons recevoir un auditeur qui est en Angola. C'est Lo. Bonsoir.
Bonsoir. Comment ça va, monsieur?
Ça va très bien. Votre commentaire?
Oui. Écoutez, les soi-disant opposants guinéens ne sont que des anciens premiers ministres. Hein. N'oubliez pas que ce sont des anciens premiers ministres, donc ils n'ont fait que des mauvais travaux hein, durant leur mandat, durant leur temps. Maintenant, ils ne veulent pas que la Guinée aille en avant. Hein. Ils ne veulent pas que la Guinée aille en avant. Okay. Donc maintenant, c'est la deuxième fois que nous votons libre et transparent. Hein. Voilà. Donc, et ils savent que c'est pas facile. en tant qu'un pays comme la Guinée, qui vient de très loin, qui vient de très très loin. Hein. Voilà, donc il qualifie l'élection des mascarades. Et écoutez, où se trouvent les représentants, hein? Je me demande où se trouvent les représentants qui se trouvent dans les différents bureaux de vote à travers la Guinée. L'Union européenne est là.
Est-ce que vous avez entendu l'Union africaine, l'observation de l'Union africaine qui était là? L'une des recommandations, ils disent qu'il faut régler les problèmes récurrents sur le fichier électoral.
Bien sûr, mais écoutez, une fois que le peuple est appelé pour élire le président, donc je ne vois pas là où se trouve le problème. D'abord, on a voté, on doit s'entendre d'abord qu'on trans, qu'il y ait la CENI trans, non ? Avant de réclamer quoi que ce soit. Mais comment est-ce qu'on peut dire que l'élection n'a pas été transparente et que d'abord, on ne sait même pas qui a remporté ou pas. C'est là le problème. Ils ne veulent pas la paix dans notre pays. C'est là le problème. Ils ne veulent pas la paix dans notre pays. C'est là le problème. Moi, je ne comprends pas quels sont ces types de soi-disant opposants en Guinée. Mm-hmm. Je ne comprends pas, monsieur.
Merci, merci pour votre commentaire. On va recevoir Christian Djerabé. Christian, bonsoir.
Oui, salut.
Oui. Vous dites que ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas nouveau en Afrique.
Oui, ce qui se passe en Afrique, n'est pas nouveau pour l'Afrique. Parce que dans chaque pays, on assiste à de telles crises. Si le parti au pouvoir arrive à remporter l'opposition réclame toujours l'annulation de cette élection. Donc, ce n'est pas nouveau en Afrique. Et maintenant, l'Union africaine avec l'ONU, reconnaissent déjà la victoire du parti au pouvoir.
On n'a pas encore parlé de la victoire.
Non, mais ils ont déjà reconnu le résultat. Donc c'est le résultat qui est la victoire du parti au pouvoir.
Non, les résultats ne sont pas encore connus. Hein.
Oui, mais vu la position de l'Union africaine avec l'ONU, l'opposition est obligée de mener de négocier avec le parti au pouvoir pour ne pas tomber dans une crise politique dans ce pays.
Faut-il négliger, par exemple, les revendications de l'opposition ?
Pardon ?
Faut-il négliger les revendications de l'opposition ?
Ce n'est pas négliger. Mais ce qui se passe dans l'opposition, c'est obligé de négocier avec le parti au pouvoir.
Merci Christian. Nous revenons vers Ibrahima Traoré. Ibrahima Traoré, un commentaire sur les interventions de nos auditeurs avant de passer la parole à Guy qui est en Côte d'Ivoire.
Merci. Je voudrais dire que de toute façon, j'ai bien suivi vos auditeurs. Cependant, il y a quand même certains faits qui s'avèrent graves, qui ont été dénoncés par un de vos auditeurs, qui a dit que les ministres passent dans les bureaux de vote pour falsifier des PV, je crois, il a dit. En plus, il dit que lui-même, il a été retenu en tant que délégué d'un parti politique ailleurs. Et je voudrais dire que de toute façon, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que ces élections ont été quand même observées par l'Union africaine, la CEDEAO, mais aussi par des observateurs guinéens de la société civile. Donc, certains faits, il a rappelé certains faits, il a révélé certains faits, et qui ici, voilà, qui n'ont pas été dits ici au place. Alors, peut-être que c'est lui qui le sait, mais moi, comme journaliste, je ne suis pas au courant de ces faits. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a eu effectivement des difficultés sur le fichier, comme tous les observateurs l'ont dit, principalement parce que les fichiers, les noms ne sont pas par ordre alphabétique, par exemple. Et donc, quand quelqu'un vient voter, il nous faut assez de temps pour qu'on puisse retrouver son nom. Et ça, ça a causé énormément de problèmes. C'est ce qui a fait, d'ailleurs, qu'il y a eu des files d'attente et beaucoup de personnes n'ont pas pu voter et dans le temps réglementaire. Et alors, la CENI, pour corriger cela, a prorogé l'heure du vote, c'est-à-dire la fermeture à 20h, c'est-à-dire 2h plus 18h. En plus, il y avait des endroits où les enveloppes manquaient. Je crois là aussi, la solution a été, sur recommandation naturellement des observateurs, la solution a été trouvée, c'était de faire voter les gens alors sans enveloppe, parce qu'ils ont dit que c'est un bulletin unique, donc cela pouvait ne pas trop jouer sur les élections. Et je crois que la CENI a d'abord demandé conseil au niveau de la Cour constitutionnelle, donc qui lui a donné son accord avant de le faire. Alors, je vais dire que ces élections, c'est vrai, ont été émaillées de beaucoup d'incidents d'irrégularité, mais comme les observateurs, la plupart du temps, l'ont dit, cela n'est pas de nature quand même à remettre en cause un peu les résultats en général ou la sincérité du vote en général. Voilà.
Merci.
Et je voudrais aussi dire que quelque temps avant cela, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis qui est en Guinée, M. Lascaris, qui est très bien aimé ici, parce qu'il est souvent très proche de la population, il va dans les villages et tout, il a dit, voilà, vous ne pouvez pas avoir quand même des élections sans petits problèmes. Les élections même aux États-Unis se font avec des problèmes. Voilà.
Merci.
Et les observateurs aussi, certains observateurs pensent que ce qui neutralise un peu et ce qui rassure un peu, c'est que les problèmes sont étalés partout. C'est-à-dire que si ce problème d'ordre au niveau des fichiers, ici ceci est un problème, mais c'est un problème donc pour tous les candidats. Et alors ça s'annule. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas dit qu'il y a une zone qui a un fichier en ordre et une autre zone qui a un fichier en désordre. C'est que toutes les zones ont des fichiers en désordre. Le retard dans l'ouverture des bureaux de vote aussi a été constaté dans toutes les zones. Et donc, finalement, tout le monde a eu les mêmes difficultés et tout le monde a été presque handicapé de la même façon.
Merci Traoré pour toutes ces précisions. Nous recevons Gu qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Gu, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous dites qu'après un scrutin en Afrique, il y a toujours des incompréhensions autour du résultat.
Exactement. Il faut dire, je suis surpris de la réaction des opposants guinéens. C'est quand même dommage d'attendre juste après les élections pour dénoncer une irrégularité. La CENI est une composition des partis d'opposition. Donc, ce qui sous-entend que dès le départ, ces partis-là ont des représentants qui leur font, donnent les échos, leur donnent les informations de ce qui se passe en interne. Ils devaient d'abord savoir préalablement que la CENI n'était pas prête pour organiser ces élections. S'ils ont accepté, ils ont fait campagne et qu'ils ont pris un mois pour se préparer, ce n'est pas au soir des élections qu'il faut demander à ce que la CENI annule carrément l'élection d'un pays. Nous pouvons dire ici ensemble que nous savons combien coûte une élection présidentielle en Afrique. Et là, comme ça, quelqu'un demande qu'on annule. Moi, je crois que c'est vraiment trop demandé à la CENI. Et nous savons tous, c'est déjà de coutume pour nous de constater que les élections en Afrique n'est jamais sans trouble. Mais ce que je tiens à préciser, pour interpeller un peu nos dirigeants, c'est-à-dire parlant des dirigeants des opposants. Ces opposants deviendront demain des chefs d'État. Et quand vous amassez, vous traînez derrière vous une foule, un peuple dans une idéologie qui n'est pas saine, quand vous serez également au pouvoir, soyez-en convaincus que ces mêmes réactions vous rattraperont. Donc je suis vraiment peiné de voir ces opposants guinéens intervenir de la sorte.
Donc,
je souhaite. Oui.
Oui, quand même, il y a eu des irrégularités au niveau du déroulement du vote, notamment des bulletins de vote qui n'étaient pas disponibles dans certains bureaux. Et le fichier électoral qui posait problème au niveau de l'ordre alphabétique, etc. Est-ce que vous pensez que